Bonjour à tous, bonsoir à tous, fidèles auditeurs de la web radio à Revue Info. Nous sommes de retour dans les studios pour l'émission Santé à la Une. Cette émission qui nous dit tout sur la santé, nous informe sur notre quotidien, nous dit ce que nous devons faire pour notre propre santé, nos droits, nos devoirs sur la santé. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Santé à la Une. Nous sommes dans le mois d'octobre et c'est un mois qui est dédié à pas mal de journées de santé, de sensibilisation sur des thématiques de la santé. Aujourd'hui, nous allons faire le panorama de toutes ces journées de la santé. Octobre vu par la santé et nous allons faire un zoom sur le mois de l'octobre rose. Je serai avec notre invité, Dr Degbe Mlatouvi, qui va nous accompagner, va nous donner plus de précisions sur certains aspects des journées de la santé en octobre. Mais avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme le dit-on, nous allons souffrir en musique le temps de bien s'installer.
Sene gomo be la mo san le vevie yenye no si ke mia do a fi mia onde wonude egbe ha me ga fon ye me le san sene a me nu veve be le san sene yenye no si ke mia do o ne mia te wonude ko ka ka fi ke ye mu va do egbe e eto ma nu e me la me de me la signo no san de ke na mano kpoji jodeji eglem di agbe ma choka fuka funde mele pasi menye magen pede mele sinye onu sandeke na manu kon konvide ti mega non butama do echa feke kendudu agbe ya la si wo egbe nukele do ti jonama yenye la mansan ke la sinye Nukele do ti jonama yenye la mansan ke la sinye e wuga munana e ke si na nu patu elo nukedo la do ti jonawa yenye la mansan ke la siwo Do egbe e eto manuel me la bede me la signo no sandeke na mano kpoji jodeji eglem di agbe ma choka fuka funde me le pasi menye magen bede me la signo no sandeke na manu kon konvide ti mega non butama do echa feke kendudu agbe ya la siwo egbe e Yenye la mansan ke la sinye Nukele do ti jonama Yenye la mansan ke la sinye E wuga, munana e Kesi nanu patu elo Nukedo la do ti jonawa Yenye la mansan ke la siwo Nukele do ti jonama Yenye la mansan ke la sinye Nukele do ti jonama Yenye la mansan ke la sinye Eh wuga, nana eh, que si no nu patu elo, no quedo la doji janawa, yenye la mansan ke la siwo.
nye bedan e, nye mouti fyo e dan le mouno.
Nan nye bedan lo, nye mouti fyo e dan le.
Nye mouti fyo
e dan le.
Nye mouti son
e dan le.
Nye mouti fyo
e dan le.
Nye mouti son e dan le mouno. E to nye bedan e, nye mouti fyo e dan le mouno.
Nan nye bedan lo, nye mouti fyo e dan le.
Maukala de beleji dani no wedo la de beleji da sigete
dala mitie maukala de beleji maukala de beleji maukala de beleji dani no wedo la de beleji sigete dala mitie maukala de beleji.
Web Radio. L'information comme si vous y étiez.
Nous sommes de retour dans le studio de la Web Radio à Reville après ces deux sons qui nous ont vraiment plongé dans beaucoup de réflexions. Je vous voyais tantôt, cher invité, être très inspiré. On dirait que vous étiez en train de prendre vos inspirations pour l'émission, surtout avec cette seconde chanson qui moi-même m'a parlé.
Tout à fait, tout à fait. Vous voyez, vous, c'est la modernité et ces chansons, ce sont des chansons de pouvoir. Ce sont des chansons de pouvoir. Normalement, ça, on ne chante pas ça n'importe où. La modernité oblige, on fait sortir ça sur les ondes et tout le monde est en train d'écouter. Ben, c'est très bien quand même.
Mais ça donne de la sensation.
Voyagé, j'étais parti dans le monde spirituel un peu quoi.
mais c'est pas mal parce que on parle de la santé et on l'a déjà démontré ici que la santé ce n'est pas que l'affaire du physique, ce n'est pas que ne pas tomber malade, ne pas être alité, mais c'est tout un ensemble, un bien-être complet, mental, physique, spirituel,
psychologique
qui fait la santé. Et donc c'est pour une circonstance donnée que cette musique a été jouée pour nos auditeurs.
Tout à fait. Parfaitement, Dr. Bickley.
D'accord. Alors, revenons à l'émission du jour. Nous allons parler un peu de la santé en ce mois d'octobre. Nous sommes dans le 10e mois de l'année et c'est un mois qui est dédié à pas mal de pathologies, qui est dédié à pas mal d'actions sur la santé. Et nous allons faire un peu le panorama de toutes ces journées de la santé pour ce mois d'octobre. Alors, mais pour débuter, que vous inspire le mois d'octobre?
Oui, justement, tout à l'heure, en présentant le mois d'octobre, vous avez dit que c'est le 10e mois. 10e mois, tout à fait, dans le calendrier grégorien que nous utilisons. Mais quelque part, on est ici pour apprendre, non? Et quand on dit octobre, octa, ça veut dire 8. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire 8 ans. En réalité, le mois d'octobre est le 8e mois. Et quand on dit septembre, sept, c'est le 7e mois. Et en poursuivant, décembre, déca, c'est le 10e mois. En réalité, l'année commence en mars. Et effectivement, on a gardé cette tradition ancienne. L'année commence en mars. Et quand vous écoutez, comment l'appelle-t-on, tous ces l'horoscope, on commence toujours par Bélier. Justement, l'année commence le 21 mars avec le printemps, ensuite et autres. Bon, revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui. Par rapport au mois d'octobre, on parle d'octobre rose. Ça coïncide très bien parce que en parlant du mois, en parlant du climat, en parlant des saisons, nous sommes en octobre et en octobre, la nature tout à fait change. On va voir que les feuilles des arbres vont changer. Ils vont prendre cette coloration rosée, cette coloration un peu tirant vers le rose, quoi. Parlant de ce rose-là, ce n'est pas aussi rose que ça, c'est le rose du cancer. Cette croix que vous allez voir sur les habits des gens évoquant le cancer de sein. Docteur Bickley, je pense que c'est le sujet principal qui nous amène ici aujourd'hui, ou bien?
Oui, je pense, parce que le mois d'octobre, c'est vraiment ce mois qui est mondialement consacré à la lutte contre le cancer du sein.
Tout à
une
fait.
Maladie qui affecte un grand nombre de femmes, notamment en Afrique. Je dirais plus en Afrique de l'Ouest, en mettant l'accent sur l'importance du dépistage précoce, nous allons peut-être attirer l'attention des uns des autres. Mais ce n'est pas que l'affaire des femmes, c'est l'affaire de l'humanité.
C'est l'affaire de l'humanité.
Parce que lorsque vous avez une dame, vous avez votre femme, vous avez votre fille, vous avez votre maman qui est attaquée par ce mal pernicieux,
vraiment,
je ne pense pas que vous puissiez dormir la tête sur les lauriers.
Merci, Dr. Bickley. Et je lui dis, j'ai pas honte de lui dire, et c'est en parlant de cancer du sein, personnellement, émotionnellement, je suis très touché parce que ma mère a été emportée par cette maladie. Et aujourd'hui, en parler ici, c'est l'occasion aussi d'alerter les uns et les autres, de faire des diagnostics précoces. Et je pense que le mois d'octobre, l'initiative, les fondateurs, ceux qui ont créé ce mois, que ce soit Octobre Rose, c'est d'informer aussi bien les femmes, les hommes, qu'on puisse passer à la détection, au diagnostic, à la prévention pour pouvoir éviter cette maladie. Et je pense, Dr. Bickley, que c'est ce que nous sommes en train de faire. Si vous me permettez, je vais prendre un peu la parole pour présenter un décor. Et dans ce décor-là, qu'est-ce que je vais dire? Beaucoup de personnes vont se dire, mais pourquoi cancer du sein, ce genre de choses, on n'en entendait pas parler. Et évidemment, quand on va rentrer dedans, les gens vont dire, mais c'est ce qu'on mange aujourd'hui et tout. J'aimerais faire un peu un bref aperçu évolutif. Et cet aperçu de l'évolution nous permettra de comprendre pourquoi l'espèce humaine, au fait, est prédisposée à souffrir de cancer du sein. Et vous, à la fin de cet aperçu, je pense que ce serait clair dans la tête des uns et des autres, aussi bien des professionnels que des gens qui sont des profanes.
Allez-y.
Merci, Dr. Gouiclet.
Nous faisons un zoom sur l'Octobre rose. Justement. Donc, il n'y a pas de raison pour pouvoir cacher
une... les informations.
Voilà.
Si l'espèce humaine, nous appartenons aux mammifères. Les mammifères, ce sont ces êtres vivants qui allaitent leurs petits. Et nous tous, nous connaissons les mammifères. On en a plein, les chèvres, les moutons, les bœufs et tout. Nous en connaissons. Mais si vous regardez parmi tout ce qui est mammifère, les femelles des mammifères, vous allez voir que la femme fait exception. La femme fait exception sur un point. C'est sur le point des seins, de la constitution des mamelles, des seins même de la femme. On parle de mamelles chez les autres espèces et par respect, on parle de seins dans l'espèce humaine. Si vous regardez dans toutes les espèces, vous allez voir que les seins ou bien les mamelles ne se gonflent qu'au moment de l'allaitement. C'est seulement au moment où la femelle est allaitante que vous allez voir que les seins vont se gonfler. Une fois la période d'allaitement finie, vous allez voir que le volume des seins vont totalement disparaître et s'aplatir. Est-ce que vous voyez? Mais la femme, dans l'espèce humaine, parmi tout ce qui est mammifère, fait une exception. Et cette exception, c'est l'évolution qui a amené ça. Et c'est la sélection naturelle, c'est l'humain qui a contribué à cela. Vous allez voir que le sein, ce n'est pas seulement un organe pour nourrir le bébé. Le sein est un organe sexuel. Et c'est un organe qui subit un cycle sexuel comme l'utérus, comme l'ovaire, comme le complexe hypothalamus qui subit des cycles. Donc cela fait que quoi? Comment est-ce que la femme aujourd'hui a un volume de sein différent des autres espèces? Vous allez voir que dans la reproduction, dans la sexualité animale, parmi les mammifères, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu. Vous allez voir que les mammifères, ils sont sur la grande partie, ils sont sur quatre pattes et ils sont inclinés. Et vous allez voir que le positionnement du sexe même est postérieur. Ce qui fait que le mâle, il va sentir ce qu'on appelle des phéromones. Ce sont ces phéromones qui vont attirer le mâle et cela va déclencher ce qu'on appelle la période de rut, la période de chaleur chez les animaux et cela va entraîner à la reproduction. Si vous voyez le bouc en train de humer le derrière de la chèvre, le bœuf en train de le faire, ils sont juste à la quête de ce phéromone-là qui va déclencher au fait la période de copulation pour qu'ils puissent se reproduire. Est-ce que vous voyez?
En effet.
Ce n'est pas le cas dans l'espèce humaine. Dans l'espèce humaine, nous avons dépassé cette étape-là. Parce que depuis, les humains ont commencé par s'habiller. Quand on commence par s'habiller, et les odeurs de ces phéromones, tout cela, ça diminue. Cela veut dire que leur effet n'est pas annulé, mais ça diminue. Quand vous allez...
Non seulement s'habiller, mais on commence par se parfumer.
Se parfumer, se laver et autres là, ça diminue l'intensité.
S'embaumer.
S'embaumer. Est-ce que tu vois? C'est les mots. Mais... l'effet des phéromones existe un tout petit peu et je vais donner un exemple. C'est la synchronisation des cycles menstruels quand les femmes vivent ensemble. Vous allez voir que quand une femme A est en un endroit donné, elle a un cycle. La femme B est en un endroit donné, elle a aussi son cycle. Mais quand les deux vont cohabiter, au bout de 2-3 mois, les cycles vont se synchroniser. Et ça, c'est l'effet des phéromones. Est-ce que vous voyez? Mais au fur et à mesure que nous sommes redressés, quel est le déclencheur? Qu'est-ce qui va attirer l'homme pour que l'homme puisse choisir cette partenaire-là, que c'est elle qu'elle veut? Il va y avoir des déclencheurs visuels. Et parmi les déclencheurs visuels, il va y avoir le volume du sein. Ce qui veut dire que quand on a dessiné une silhouette de femme et une silhouette d'homme, ce qui fait la différence nette, c'est le sein. Ce qui veut dire que les hommes vont commencer à sélectionner les femmes qui ont une poitrine plus généreuse. Et une poitrine plus généreuse, c'est le garantie que les enfants ne vont pas manquer de quoi se nourrir parce que les seins vont produire du lait. Et c'est instinctif et c'est sexuel. Les seins sont devenus un organe de déterminisme sexuel. À partir de ce moment-là, pendant des millénaires, les hommes ont sélectionné les femmes ayant des volumes de seins beaucoup plus proéminents. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui fait que les volumes de seins sont proéminents? C'est le déterminer. On est programmé génétiquement. On a sélectionné, nous les hommes, depuis les antiquités, nous avons sélectionné les femmes qui ont un volume de sein plus grand. Et pour qu'un organe puisse se gonfler, vous allez voir qu'il va y avoir modification des cycles cellulaires, ils vont beaucoup se multiplier. Et le cancer, c'est quoi? C'est une multiplication anormale. Les seins sont constitués de graisse, de tissus adipeux et de tissus galactophores. Est-ce que vous voyez? Donc, quand les volumes de seins vont se gonfler sous l'effet des hormones et prendre un certain volume, c'est déjà une forme de prédisposition au cancer. Et au fur et à mesure, et pendant des siècles, et pendant des civilisations, et on a sélectionné les femmes de plus en plus de gros seins. Aujourd'hui...
D'où ce que vous appelez la sélection naturelle.
La sélection naturelle.
C'est-à-dire, on a été porté plus vers ces individus, ces femmes-là.
Au gros sein.
Au gros sein. Et la conception, disons, du monde a fait que
justement,
c'est cette catégorie
de femmes
qui sont appréciées et donc qui ont tendance à suivre.
Justement, voilà. Justement. C'est tout à fait naturel. Docteur Beclay, bon, on est ici, je ne veux pas te poser une question. Si tu préfères une femme plat-plat ou une femme à gros sein, je ne veux pas te poser la question.
Je préfère ne pas répondre.
Justement. Justement, cela va faire que aujourd'hui et dans un passé très récent, notre alimentation, la régulation est tout à fait naturelle, ce qui fait qu'il n'y a pas d'interaction entre ces cellules-là qui sont prédisposées à être cancéreuses. Parce que toutes les femmes que nous avons sélectionnées, comme aujourd'hui, on a sélectionné des races de vaches qui vont produire de lait, des vaches laitières. Ce n'est pas normal, parce qu'une vache, quand elle donne un veau, elle allaite le veau pendant un temps et la production de lait s'arrête. Mais on a des vaches qui produisent du lait en continu, sans avoir un bébé. C'était une sélection naturelle. Et c'est ce que nous avons fait avec les femmes. Et quand vous posez la question à un chirurgien, la chirurgie qui marche aujourd'hui, c'est la chirurgie plastique. Les femmes se gonflent les seins. Elles paient des millions pour que les seins soient gonflés. Pourquoi? Elles sont sûres que les hommes, avant de voir leurs yeux, avant de voir ce qu'elles connaissent dans la tête, l'homme va voir d'abord ses volumes de seins. Donc, ne soyons pas étonnés aujourd'hui de voir qu'il y a des problèmes de cancer de seins. Parce que nous avons sélectionné cela et on en est au résultat aujourd'hui. On est d'accord? Voilà ce bref aperçu évolutif que je voulais faire pour que les gens comprennent pourquoi aujourd'hui tout le monde veut une femme, les Miss Lolo, quoi. Tout le monde, que ce soit en Europe, que ce soit partout, on nous a conditionnés. Parce que c'est intensif, comme je l'ai dit, on était dans une période où il y a beaucoup de mortalité infantile. Pourquoi les enfants mouraient? Parce qu'il faut que papa aille à la chasse avant de revenir. Papa aille à la couette avant de revenir pour que maman puisse manger pour produire de lait. Alors, si on prend une femme qui a un volume de sein assez proéminent, c'est un garantie psychologique que l'enfant ne va pas manquer de quoi vivre. Ça donne l'assurance. Et ce n'est qu'aujourd'hui que la tendance est en train de changer où on veut les femmes à la ligne. Sinon, avant, personne ne voulait d'une femme à la ligne. Une femme squelettique, personne n'en voulait. Parce qu'on dit qu'elle est maladive, il faut que la femme soit imposante, qu'elle ait des volumes de seins, qu'elle ait des fesses bien ressorties. Et c'était la sélection. Maintenant que cette sélection nous a conduit à un problème, depuis un certain temps, on a des problèmes de cancer du sein. Tout simplement parce que les causes, nous allons les aborder. Docteur Beclay.
D'accord, nous allons les aborder. Mais c'est quand même vrai qu'il faut, que de temps en temps, on fasse ces approches-là.
Justement.
Pour mieux comprendre aussi l'étiologie de certaines pathologies.
Tout à fait.
Voilà, il faut qu'on retourne un peu dans l'histoire pour voir ce qui a amené à certains comportements au niveau de l'espèce humaine.
Tout à fait.
Alors, nous parlons de l'Octobre Rose. C'est ce mois qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et c'est un mois qui a été, disons, formalisé pour informer sur les modalités de dépistage, disons, et la mammographie, les autopalpations et sur les structures disponibles pour les femmes du monde entier. Si nous nous mettons dans le contexte du Togo, on va dire pour les femmes togolaises. Oui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui en termes de comportement alimentaire pour l'étiologie du cancer?
Merci, docteur Beclay. Et cette émission, c'est une très bonne émission. Et je remercie toujours les directeurs de la radio Ahuivia de donner cette opportunité pour que nous puissions apporter notre modeste contribution pour informer la population. Tout à l'heure, vous avez évoqué les causes alimentaires. Je vais un peu extrapoler, si vous voulez, les causes alimentaires pour arriver à une cause fondamentale. Parce que nous, nous sommes des physiologistes, nous sommes des biochimistes. Il faut que nous expliquions le fondement des choses pour les personnes, pour que les gens comprennent pourquoi ces maladies sont en train de se multiplier.
Allez-y, vous avez votre point de droit.
Merci, docteur Beclé. Tout à l'heure, j'ai dit que les seins, ce sont des organes sexuels. Cela peut choquer quelqu'un parce qu'on ne donne pas naissance par les seins. Mais vous allez voir que chez la femme est le plus souvent comparée dans notre culture à la lune et l'homme au soleil. Et ça, ça veut tout dire parce que le soleil est constant. Le soleil n'a pas de cycle. Tel qu'il se lève, c'est comme ça il est. Alors que la femme est cyclique. Est-ce que vous voyez? La lune est cyclique. Tout est cyclique dans la femme. Et tout est régulé à la minute près. Si vous regardez dans beaucoup de cultures, quand on veut parler de la femme, qu'on va parler de mensa. Mensa, au fait, veut dire la lune. Hein. Quand on parle de menstrualité, des mensualités, les règles et tout ça, c'est la lune. Dans la langue hébreu, on parle de dinou. Dinou, c'est la lune. Ce qui veut dire que tout dans la femme est réglé à l'hormone près, au picogramme près. Nous sommes en train de parler du cycle et je parle des seins.
Je ne vous coupe pas la parole. Et si on fait un peu le parallèle avec... les marées,
justement,
et qui sont causées souvent par un petit dérèglement du cycle lunaire. On peut imaginer un peu ce que peut avoir comme conséquence d'un petit dérèglement sur la santé sexuelle de la femme.
Docteur Beclé, je dirais que tu es un initié des sciences africaines. Tout à fait. Parce que vous venez d'évoquer quelque chose. Quand nous sommes en train de parler de physiologie et tout ça là, les gens pensent que c'est une science blanche. Non. Ce sont des connaissances intimement liées à la culture africaine. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que la femme, tout est réglé dans la femme. Les gens ne savent pas qu'il y a un lien entre la marée et la lune. La lune a une grande influence sur la personne humaine, sur la race humaine, sur toute la terre. La femme a une influence sur toute la terre. Si justement les positions de la lune peuvent faire déborder les marées, les positions de la lune peuvent faire déborder aussi les menstruations. Cela veut dire que dans le corps même de la femme, les hormones sont réglées au nanogramme près. Je vous dis, les scientifiques ont dosé au nanogramme près. Tous ceux qui nous écoutent, ce sont des gens qui ont peut-être fait la physiologie de reproduction en classe 3e. Ils ont entendu parler d'œstrogènes, de progestérone et de tout cela. Ce sont des hormones qui sont dosées au nanogramme. Il suffit de les modifier un peu que le cycle de la femme va être perturbé et ça va donner des conséquences graves. Donc, quand nous comprenons que la physiologie sexuelle de la femme, la physiologie reproductive de la femme est régulée par ces hormones, l'œstrogène, la progestérone, on devait comprendre que tout ce qui va modifier ces hormones va porter atteinte à la santé reproductive de la femme. Dans l'ancien temps, les gens savaient cela et la femme ne buvait pas n'importe quoi. On savait que la femme en période ne boit pas ceci, la femme en période ne mange pas ceci. Et puis, la femme en gestation ne prend pas n'importe quoi. Tu vas écouter que la femme enceinte ne boit pas de l'herbe. La femme enceinte ne fait pas ceci. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ces hormones-là, quand on a compris comment ils marchent, ces hormones marchent pour réguler le cycle sexuel, qu'est-ce que la science a fait? On veut réguler maintenant la santé reproductive de la femme et on a créé quoi? Les pilules, les contraceptions. Aujourd'hui, on ne peut plus le démentir. Il y a un lien intrinsèque entre l'avènement de la contraception hormonale, la contraception par les pilules et l'explosion des problèmes de cancer du sein. Beaucoup de médecins l'ont dit, beaucoup des articles l'ont mis en place et il faut qu'on alerte les gens que quand vous commencez par prendre des pilules, quand vous commencez par faire la contraception, soyez sûr que la façon dont votre cycle hormonal a été réglé au nanogramme près, vous allez déboussoler cela, vous allez bousiller cela et vous allez avoir des conséquences. Les exemples, il y en a par millions. Beaucoup de femmes qui souffrent de cancer du sein, il y en a beaucoup qui ont été vues qu'ils ont fait des problèmes de contraception. Quand vous prenez ne serait-ce qu'une seule pilule aujourd'hui, la quantité d'hormones qui est mise là-dedans dépasse ce que vous allez produire toute une année. Est-ce que vous comprenez? Or, le sein est un organe effecteur. On parle de cycle des effecteurs. les seins, les voies vaginales et tout cela. Vous allez donc induire des choses au niveau des seins. Toutes les femmes qui sont en train de nous écouter, toutes les jeunes filles qui sont en train de nous écouter, nous ne sommes pas des femmes, nous sommes des hommes, nous sommes des cliniciens, nous sommes des scientifiques dans le domaine. La femme sait que la consistance même de ses seins, les volumes même de ses seins, la sensation même de ses seins varie au cours du cycle. Il arrive à certains moments, les seins sont assez durs. Il arrive à certains moments, les seins sont assez souples. Il arrive à certains moments, on sent des douleurs au niveau des seins. Est-ce que vous voyez? Tout cela, c'était réglé, c'était programmé. Mais maintenant, tu prends trois pilules. Aujourd'hui, les Norlevo, les Levogestrol, tout cela, on en prend comme on prend paracétamol, on en prend comme on boit de l'eau. Et on s'étonne qu'il y ait des cancers du sein. Mais quand on est dans la prévention, il va falloir qu'on alerte les gens que la régulation hormonale de l'organisme, c'est quelque chose qui est très sensible. C'est comme vos portables qui reçoivent les ondes Wi-Fi, les ondes de téléphone et ils commencent par sonner. C'est de la même façon que les organes dans notre corps sont alertés par des hormones. Il va falloir diminuer les doses que nous en prenons. Il va falloir vraiment contrôler au nécessaire. Il y a les pilules de lendemain, il y a les pilules de je ne sais pas quoi, il y a les patchs, il y a les injections et tout cela contribue aujourd'hui que le cycle hormonal, la dose, la quantité des hormones ont été bousillées et qu'on ne s'étonne pas que les femmes aient des problèmes de cancer du sein.
Merci, docteur Degbe, pour ces explications. C'est vrai, vous avez débordé sur l'aspect que vous devez développer, mais je pense que c'était nécessaire pour mieux comprendre un peu l'origine même de ce phénomène-là aujourd'hui qui vraiment nous dépasse et qui nous empêche de dormir, qui est le cancer du sein.
Tout à fait.
Alors, nous allons revenir sur certains détails, mais nous allons souffler un peu en musique. Le temps, comme j'ai l'habitude de le dire, de digérer le condensé d'informations que vous venez de nous donner.
Tout à l'heure, tout à fait.
bozo ki bolo dam mademada ke bolo hamno lelen menene wandu da lombolin ba widi we mo jolo dam ye
kele 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 cha so mewa kele 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 cha so mewa kele 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 kele
kele kele kele kele kele kele kele
Nous sommes de retour ici dans le studio de la web radio à Revy et nous parlons aujourd'hui de l'Octobre Rose. Et cette émission est faite pour vous, les auditeurs de la web radio à Revy, à tous ceux qui sont connectés et nous permet aujourd'hui d'informer sur les modalités de dépistage, nous permet de parler des survivantes de cette affection qu'est le cancer du sein, à partager leurs témoignages pour encourager d'autres femmes à se faire dépister, à sensibiliser sur les facteurs de risque du cancer du sein, comme l'hérédité, comme l'alimentation, comme nos comportements, nos habitudes, nos modes de vie, et également à parler si possible des ONG, de ces structures-là qui existent et qui peuvent facilement accompagner certains malades. Bref, nous parlons aujourd'hui de tout ce qui peut aider pour la lutte contre le cancer du sein. Docteur Degbe, nous revenons un peu à ce que vous étiez en train de dire avant la pause musicale par rapport à tout ce qui est aujourd'hui ce qu'on peut appeler les modes de vie qui entraînent cette élévation vraiment assez étonnante du nombre de personnes qui contractent le cancer du sein.
Merci Docteur Degbe. Je vais peut-être encore choquer un peu les personnes parce que...
Non, vous n'allez pas choquer, vous allez leur dire la vérité.
Merci docteur.
Peut-être que cette vérité est à côté, mais ils n'osent pas ouvrir les yeux pour voir ce que c'est que cette vérité, ou n'osent pas écouter ces vérités.
Tout à fait. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées concernant le cancer du sein. Et quand vous parlez de mode de vie, c'est vraiment, c'est prépondérant. Vous avez évoqué tout à l'heure l'alimentation. Je ne vais pas beaucoup traîner sur l'alimentation parce que dans l'alimentation, aujourd'hui, on va remarquer les boissons et parmi les boissons, l'alcool. L'alcool a toujours été indexé comme l'un des facteurs aggravant la survenue des cancers du sein. Aujourd'hui, dans notre vécu quotidien, l'alcool est rentré aussi dans le secteur, je peux dire, féminin. Avant, c'est un cadre assez masculin. Ce sont les hommes qu'on retrouve dans les bistrots, ce sont les hommes qu'on retrouve un peu partout pour pouvoir boire de l'alcool. C'est tout récent qu'on a constaté que les femmes ont pris à bras le corps aussi cette habitude de boire de la bière, de boire des boissons alcoolisées et parfois même de se saouler, de se retrouver entre femmes pour pouvoir boire. On parle de libéralisation des mœurs. Cependant, il faut savoir reconnaître que la physiologie féminine est tout à fait particulière et qu'il y a des choses, quand l'homme le fait et qu'on demande à la femme de ne pas le faire, ce n'est pas une question de genre ou qu'on est en train d'empiéter sur les droits de la femme. Non, parce que la femme est appelée à porter la vie.
C'est là où ça devient vraiment assez complexe.
Justement.
Assez complexe, pas difficile, mais complexe parce qu'on ne sait pas où se situe la limite entre ce que nous appelons aujourd'hui l'équité. Et où se situe vraiment cette distinction entre le sexe masculin et le sexe féminin.
Très bien.
Je ne parle pas du genre, mais oui, je parle du sexe masculin, sexe féminin et de l'équité qui se trouve être un concept social.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. On est vraiment en plein imbroglio maintenant, ce qui veut dire que même sur le facteur genre, le facteur sexuel et tout ça, on ne sait plus vraiment quoi et quoi. Mais il y a mon prof de philosophie de terminale qui a une façon tout à fait vraiment ridicule de trancher le problème. Il dit, mais comment voulez-vous que ce qui est creux soit égal à ce qui est pointu? Ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on accepte. Et justement, c'est là où beaucoup de femmes, les premières féministes, sont en train de revenir. Et attention, nous voulons j'entends beaucoup d'émissions sur RFI. Je vois des femmes qui sont en train de sensibiliser. Que non, nous sommes des femmes. Et être femme ne veut pas dire qu'on est inférieur à l'homme. Nous avons une physiologie tout à fait particulière. Des études ont montré que les femmes religieuses, les moniales et les bonnes sœurs qui sont... On a vu que le taux de cancer du sein est très élevé à leur niveau. Et quand on a fait l'expérience, on en a trouvé. Parce que, d'abord, quand on est femme, on est conçu, on est prédisposé de façon génétique, de façon sociale à concevoir. Quand le moment de concevoir est arrivé, je parle de l'âge biologique de la conception. Quand la femme commence à avoir ses menstruations et tout cela, son corps est prédisposé à accepter l'homme. Est-ce que vous voyez? Quand on interdit, quand les concessions religieuses, les concessions sociales interdisent à ce que les rapports sexuels, les rapports entre l'homme et la femme puissent se passer, c'est un facteur, un déterminé très pointu que les gens ont compris aujourd'hui que ça déclenche les cancers du sein. Quand vous voyez des femmes qui sont encore entre guillemets vierges à 28 ans, à 30 ans, qui n'ont pas d'activité sexuelle, des pays comme le Japon où les femmes sont à 30 ans, 46 ans, 50 ans, qui n'ont jamais connu d'homme, on voit que la survenue de taux de cancer est élevée. L'expérience l'a montré. Et on a vu que des femmes ont des problèmes de cycle, des problèmes de menstruation et autres. Et qu'est-ce qu'on a fait? on a, ce sont des articles scientifiques. C'est ça que je dis toujours, qu'il y a une dichotomie entre la masse intellectuelle qui connaît beaucoup d'informations et toute la masse généralisée qui n'en ont pas assez. C'est que on a pris seulement des hommes, on leur a donné, vous voyez les débardeurs là, ils ont porté, ils ont fait du sport, ils ont couru, ils ont tout fait, ils ont sué dedans. Et on a pris un groupe de femmes qui ont des problèmes de cycle, des céphalées, pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris leur débardeur là, on a mis sur leur oreiller. Et en dormant, j'avais parlé des phéromones. Ces phéromones qui sortaient des sueurs de l'homme, elles ont mieux dormi. Leurs problèmes de cycle, tout cela s'était régulé. Vous comprenez? Ce qui veut dire que nous sommes en quelque sorte un médicament pour les femmes. Voyez-vous?
Nous sommes un médicament, oui, on peut le dire ainsi. Mais l'interaction sociale même
tout à fait.
Est un médicament.
Est un médicament.
Parce que dès qu'on se parle,
on se côtoie,
voilà, on a tendance à laisser des fois tomber nos égos.
Justement.
Et à pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas seul.
On n'est pas seul.
Et on est deux ou trois, et donc il va falloir respecter le statut de l'autre, va falloir respecter vraiment là où s'arrête ses droits.
Alors, très bien. Mais, je vais continuer dans ce sens, je n'étais pas coupé. Hein.
D'accord.
On s'est rendu compte que les femmes qui sont mariées, qui ont une activité sexuelle, et parfois l'homme touche un peu les seins et autres, on a aussi constaté que c'est un facteur qui adoucit, qui diminue le risque de survenue de cancer de sein. Donc, quelque part, on a aussi fait des études et on a montré que les femmes qui sont femmes entre griffes, je parle socialement parlant, c'est-à-dire qui font le ménage, qui soignent les enfants, qui les amènent les enfants à l'école, qui s'occupent d'un mari et autres, l'expérience a montré que ce statut entre griffes de femme fait que la survenue de ces cancers du sein est très amoindrie à leur niveau. Et par contre, les femmes qui sont dans le secteur tertiaire, qui ne se sont pas mariées, qui sont célibataires et tout cela, à 30 ans, 40 ans et autres, cela augmente au fait la survenue même des cancers du sein. Quelque part...
Alors là, on peut parler un peu du facteur stress.
Justement.
Qui entre en jeu, plus des autres facteurs que vous venez de
tout
citer.
À fait,
il y a plusieurs facteurs, hein, vous en avez cité pratiquement, il y a trois. Il y a le stress maintenant qui s'ajoute. Et qui est un facteur pas des moindres.
Très lourd.
Exactement. Alors, ce que je voulais ajouter en temps, c'est quand même assez difficile de pouvoir mettre en pratique ou bien de pouvoir faire découvrir comme des mortels des résultats issus des travaux de recherche.
Tout à fait.
Qui vont des fois l'opposer de nos mœurs.
Très bien.
Alors, vous voyez, aujourd'hui, dans nos sociétés, ne pas connaître d'hommes sans être marié, c'est ce que nous voulons.
Très bien.
C'est ce que les familles veulent.
Exactement.
Du moment où vous n'êtes pas marié, vous n'avez présenté aucune personne à la famille, il n'y a pas de raison pour que demain vous venez avec une grossesse.
Très bien.
Et ça peut aller à 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans pour certains.
Tout à fait.
Et pourtant, la science nous dit que ces personnes-là sont les personnes qui sont plus enclines à développer ce mal.
Très bien.
Il va falloir trouver vraiment le juste milieu.
Exactement, docteur Bouclé.
C'est la même chose avec les bonnes sœurs dont vous venez de parler.
Exactement.
Mais la morale au niveau de la religion des bonnes sœurs ne permet pas ce que elles conçoivent.
Très bien.
On peut dire même que ça rentre dans une sphère de...
Oui, et tout à fait. Tu es catholique comme moi, je le suis, et comme tout le monde dans cette salle, et je suis sûr, les catholiques représentent plus de 3 milliards de personnes dans le monde, les chrétiens, et quand on aborde ce genre de sujet, aujourd'hui le pape est fusillé de partout, tout le monde lui pose des questions, les prêtres disent, on veut se marier, ce sont des hommes, ce sont des humains comme tout le monde. Écoutez, nous sommes des hommes, et avant d'être des êtres spirituels, nous sommes des êtres biologiques. La matinée, le cesse, ça ne comprend pas que tu es prêtre.
Mais ils ont pris des engagements. Avant, ils ont pris des engagements, ils savaient, donc.
Oui.
Ils ont le choix, je pense, hein.
Oui, ils ont le choix. Quand on est jeune, n'oublie pas que j'étais un ancien séminariste aussi, j'ai fait 2 ans pour devenir prêtre.
Exactement.
Quand on est jeune, on a l'engagement, on a la foi, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dedans, ça pose un problème. Je voulais revenir très justement à ce que vous dites concernant l'âge de mariage, la dichotomie entre les résultats scientifiques et les concessions sociale. Vous savez, en Afrique avant, quand une femme Et c'est encore aujourd'hui ce qui est pratiqué chez les juifs, chez les musulmans. Quand la femme commence les premières menstruations, déjà, il faut qu'on lui commence à lui chercher de mari. Entre griffes, est-ce que c'est la bonne ou c'est la mauvaise? C'était l'âge biologique. L'âge biologique était en adéquation avec le fait social. Parce qu'avant, quand tu arrivais à 14 ans, quand tu arrivais à 15 ans, que ce soit la fille, elle là, excusez-moi, la maman Marie, la Vierge Marie, elle n'avait pas 90 ans avant de donner Jésus. Donc, maintenant, c'est la transition qui cause problème. C'est qu'on est arrivé à un moment où, à 15 ans, la fille n'est même pas encore au lycée. Elle est encore au collège. Vous n'allez pas lui parler de mariage. Et à 30 ans, la fille est à l'université. Vous n'allez pas lui parler de mariage. Mais l'âge biologique n'est pas en adéquation avec l'âge social. C'est ce milieu-là pour lequel nous devons commencer par réfléchir. Et ensemble, je pense qu'on va trouver un compromis. Et je suis sûr aujourd'hui que toutes les jeunes filles qui sont en train de nous écouter, elles sont en train de sourire. Papa pense que la fille est encore vierge. Maman pense qu'elle n'a pas commencé. Mais bon, docteur Gbekele, je vous donne la parole.
Merci, docteur Degbe, pour cet éclairage sur ce que c'est que les facteurs qui conduisent un peu au cancer du sein. Nous n'avons pas pu
circonscrire
tout le sujet.
On vient à peine de commencer.
Nous allons continuer. Nous avons tout le mois d'octobre devant nous pour pouvoir discuter de ce mal-là. Et je pense que nous allons revenir dans les détails sur ces causes-là et surtout parler de comment on peut prévenir la jeune fille de ces causes et ensemble avoir une humanité sans cancer. C'est possible.
C'est possible. Et peut-être...
Rien n'est impossible.
Rien n'est impossible. Faire le lien entre le cancer du sein, le cancer du corps de l'utérus, les deux cancers qui font ravage aujourd'hui. Heureusement, pour le cancer de l'utérus, on est en train de trouver des vaccins. Mais ces vaccins, ça ne veut pas dire 100% efficace. Et il faut que les gens sachent vraiment les causes et prennent les dispositions nécessaires.
Et il va falloir qu'on soit vraiment très vigilant parce qu'on a aujourd'hui le phénomène des antibiotiques. Ces solutions qui sont devenues aujourd'hui des poisons.
Évidemment.
Et donc, il faudra qu'on soit vigilant par rapport à ces vaccins qui sont des solutions aujourd'hui, mais qui demain peuvent devenir des poisons.
Des problèmes même.
Exactement. Nous sommes dans l'émission Santé à la Une. Aujourd'hui, nous parlons de l'Octobre Rose, ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et nous avons discuté un peu avec notre invité du jour, Dr Degbe. Nous allons avoir son mot de fin avant de clore cette émission.
Docteur Gbekele, merci pour... C'est un plaisir partagé de se retrouver ici. Si nous parlons de cancer du sein, je pense que nous aurons l'opportunité d'avoir plusieurs émissions pour sensibiliser. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. On ne saurait le répéter. Prévenir vaut mieux que guérir. Faire la mammographie, aller se faire dépister, prendre les dispositions nécessaires, avoir une hygiène de vie, des modes de vie en adéquation avec l'être et la féminité qu'on est censé incarner. Merci.
Merci, docteur Degbe, pour votre mot de conclusion. Fidèles auditeurs, vous qui nous écoutez, nous sommes dans l'émission Santé à la Une, dans les studios de la web radio Awevi. Nous sommes à la fin de l'émission du jour. Nous étions avec docteur Degbe. Notre invité du jour à la partie technique, c'était Miss Darley. Et moi-même, votre fidèle et humble serviteur, Dr Gbekele. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. La santé, c'est un trésor.
Merci, Dr Gbekele.
Ruby Web Radio. L'information comme si vous y étiez.